Alors, en gros, pour vous situer vite fait qui je suis jeune artiste, j'ai fait les Beaux-Arts à Paris, c'est là que j'ai rencontré Pierre Alféri, parce qu'il est professeur d'histoire de la création littéraire. Et avant de faire les Beaux-Arts, j'avais étudié le graphisme et l'édition, c'est vraiment un domaine qui me touche beaucoup, enfin, je suis un fou de livres, et des beaux livres précisément. Plus précisément. Et du coup, en étant aux Beaux-Arts, je quitte un peu ce monde-là, mais j'ai toujours ce désir en moi. Mais je sais pas, il me manquait une rencontre ou un déclic pour passer à l'acte, faire un livre. Quoi. Et du coup, vient 2016, où avec un groupe d'étudiants, on participe beaucoup aux manifestations contre la loi travail, on essaye d'occuper la place de la République, après on essaye d'occuper l'école, ça tient quelques jours, etc. Et c'est là que vraiment j'ai rencontré Pierre Alféri, c'est là qu'on est devenus proches, parce que c'était peut-être le seul prof qui nous a autant soutenus à ce moment-là. Voilà, et très courageux, il venait d'arriver à l'école, et voilà. Et du coup, c'était super, et puis du coup, ensuite, je fais mon mémoire, et du coup, je demande à Pierre Alféri d'être dans le jury du mémoire, et on discute à la fin de la soutenance. Et on parle de son petit recueil « Et la rue » qui venait de sortir sur lundi matin. Et ce petit recueil que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je lui demande « Mais pourquoi il est sorti sur lundi matin ? Pourquoi pas en papier ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, Pierre Alféri me dit qu'il n'avait pas trouvé d'éditeur pour un si petit livre, en gros. Voilà. Et du coup, ça... Ouais, bon, mais... Non, mais voilà, du coup, l'idée a germé tout de suite. C'était ça, la rencontre, quoi. Et du coup, on a fait ce livre. Enfin, on a rajouté un autre recueil qui s'appelle La sirène de Satan, pour faire un livre un peu plus consistant qu'un feuillet de 16 pages. Et voilà, et du coup, c'est le premier. Du coup, c'était fait un peu de manière empirique, quoi. Il y a des histoires, puis des histoires, et on arrive à ça. Et ça trace un peu ce qui va se passer après. Enfin voilà, pour les projets de la maison d'édition, l'idée c'est de se concentrer sur la poésie et la critique d'art, et voilà, et ça c'est une bonne première pierre, quoi. Peut-être d'abord on parle du contenu du texte. Peut-être tu veux parler du texte. Ouais. Bon, voilà.
Non, ce que je veux ajouter, parce que tu n'as pas dit, c'est que dans la conception du livre, Clément il a quand même joué un rôle important, pas seulement parce qu'il l'a commandité finalement. Et vraiment commandité au sens où on n'a pas juste repris la suite de poèmes telle qu'elle était, mais il m'en a demandé d'autres. Donc j'ai fait un autre choix qui n'existait pas au départ, même si après je l'ai repris. Donc il a quand même conçu en grande partie le livre à partir des poèmes qu'il connaissait, mais surtout graphiquement il a fait un travail tout à fait particulier, quoi, vraiment singulier dans le choix du caractère et les images. C'est entièrement son idée, sa suggestion. Moi j'ai trouvé super, mais c'était pas du tout prévu comme ça. Il y a un corot très beau que je connaissais pas, d'ailleurs j'avais jamais vu ce tableau, j'avoue, ou si je l'avais vu je l'avais pas remarqué. Qu'il a divisé, enfin il a fait un joli, je trouve, une jolie forme avec ça. Ça apparaît au début et à la fin, et puis ça a une résonance qui n'est pas totalement littérale et univoque par rapport au texte, qui moi me plaît bien, à la fois apocalyptique et pas seulement ou pas principalement, quoi. Et puis l'objet lui-même a été entièrement conçu et décidé par Clément, donc c'est vraiment son travail, et donc je suis très content. Moi, alors, si je peux dire un truc anecdotique, effectivement, j'ai pratiquement jamais publié de plaquettes, de petits livres, comme on appelait ça, des plaquettes. Oui, franchement, je crois que ça n'est arrivé qu'une seule fois, et puis c'était pour des raisons vraiment de format particulier, où ça n'aurait pas pu être chez un grand éditeur, parce qu'il fallait un format à l'italienne. Sinon, ça m'est jamais arrivé, à la fois par... Je sais pas, faire de circonstances, et puis j'avais pas spécialement envie de faire des petits livres de poésie, parce que souvent pour moi c'était associé, mais c'est aussi une question de génération, c'était associé aux livres qu'on faisait encore beaucoup dans les années 70 et début 80, qui étaient des livres précieux, des livres pour bibliophiles finalement, qui était fait au plomb, sur du beau papier, avec deux tirages, un sur Japon. Là, il y avait souvent des livres comme ça, rehaussés, pour donner une valeur. Alors, ça peut faire des beaux objets, mais j'avais jamais envie de faire ça, moi, pas avec la poésie, surtout pas avec la poésie. Donc là, c'est différent. C'est un petit livre beau, joli, soigné, mais qui n'est pas un livre de bibliophilie, qui n'est pas un livre ornemental aussi, dans sa qualité plastique. Ça ressemble plus à un... Je ne sais pas d'ailleurs à quoi ça ressemble, mais c'est comme une intervention, quoi. C'est un petit livre d'intervention. Voilà, je crois qu'on vous a tout dit à peu près sur l'histoire de ce livre. Un peu, tu peux peut-être parler un peu de la maison d'édition et de ses projets, non,
peut-être d'abord on parle du texte.
Oh, le texte, tellement secondaire. Hein. Maintenant qu'on a vu la couverture, la typo, les images. parler du texte, ce n'est pas très facile, en fait, pour moi. Je ne sais jamais très bien quoi dire... Heureusement, d'habitude, on me demande juste de lire ou bien de répondre à des questions. Mais présenter un texte, je ne sais pas trop comment le faire. Hein. C'est difficile. En quelques mots, c'est des poèmes. Donc, il n'y a rien de plus bête que ça. Hein. C'est des poèmes comme n'importe quel poème. Donc, ils ont été écrits un par un. Ils sont autonomes. Ils sont faits pour être lus en une fois. C'est des petites constructions rythmiques. Voilà, la circonstance, ensuite, c'est à la fois la circonstance la plus banale, la plus commune pour moi et pour beaucoup de citadins, c'est-à-dire c'est la vie dans des espaces publics. Hein. C'est toujours... je pense que pratiquement rien dans ces poèmes ne se réfère explicitement à un espace privé. C'est essentiellement l'expérience d'être dehors. Hein. Puis être dehors dans la ville, comme vous savez, c'est d'être dans une rue ou dans des rues, donc la circulation, les gens qui se croisent, le côté à la fois... routinier. C'est des choses très banales, tout ça. Hein. L'absence de communication sous la communication apparente, les transports, les déplacements, les foules, mais aussi, d'autant plus qu'effectivement, c'est écrit dans ces années-là, c'est-à-dire 1817, par là, les manifestations, la police dans les rues, la façon dont les rues sont transformées par les actions de rue. Ça m'a beaucoup frappé à ce moment-là. C'était pas nouveau, mais enfin, il y a eu quand même une très longue et très dense série de manifestations importantes, violentes, très émouvantes pour moi. Moi, c'était là où, en fait, j'ai été le plus ému par ces choses-là, même si ça m'arrivait d'aller à des manifestations. J'ai jamais été très militant auparavant, bien que j'ai toujours été... je me suis toujours senti en sympathie profonde avec ce qu'on appelle l'ultra-gauche et surtout les anarchistes. Mais enfin, je ne faisais pas grand-chose, je n'étais pas un vrai militant. Et là, entre 2016 et maintenant, on a quand même eu des mouvements sociaux assez extraordinaires. À commencer par celui contre le travail, puis les gilets jaunes. Mais... Donc tout ça aussi était évidemment très présent quand j'écrivais ces poèmes. Et ceux qui font suite, finalement, même s'ils ne forment pas un cycle cohérent du tout, ils datent des mêmes mois. En fait, ils sont complètement contemporains et ils partagent quand même beaucoup, je pense, dans l'atmosphère et les objets, si on peut dire, avec ce dont je viens de parler. Hein. C'est-à-dire que c'est des poèmes souvent qui sont dans d'autres villes, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça s'est fait comme ça. Mais les poèmes et la rue, c'est nettement parisien. Enfin, pas seulement. Non, pas seulement, c'est pas vrai. Il y a aussi des références précises à d'autres villes moyennes ou grosses villes comme Rennes, Reims, un petit peu. Et puis, dans les poèmes de la fin aussi, c'est d'autres villes, Nice, voilà, avec des atmosphères urbaines un peu différentes. Voilà, je reste un peu à l'extérieur, mais je sais pas très bien comment en dire plus. Pour revenir deux secondes à l'école des Beaux-Arts, c'était étonnant que tout d'un coup, certains étudiants, en fait, vous n'étiez pas très nombreux, c'est une dizaine, une trentaine, oui. Certains étudiants se mobilisent. Auparavant, moi, c'est vrai que je n'étais pas là depuis longtemps, mais j'étais chargé de cours pour une petite partie depuis un bon moment à l'école des Beaux-Arts. Je n'avais jamais constaté le moindre mobilisation politique aux Beaux-Arts. Et je me gardais bien de m'en mêler, évidemment, parce que c'était vraiment très, très, beaucoup plus encore que dans les facs. Et dans les écoles d'art en général, d'ailleurs, c'est un paradoxe, mais les écoles d'art sont très peu politisées, hein, souvent. Et donc là, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, qui était quasiment, existentiel, c'était physique, quoi. C'est-à-dire, les étudiants, ils étaient sur la place, ils se faisaient tabasser. Il y en a une qui a eu le poignet à moitié arraché. Donc, on s'est retrouvés tout d'un coup à avoir... des liens beaucoup plus forts, forcément. Hein. Ouais. Et puis l'administration de l'école était particulièrement lâche, il faut le dire, à l'époque. Bon, c'est pas qu'en général, les administrations s'illustrent par leur courage, mais enfin là, ils étaient vraiment assez focus. Donc, ouais, ça crée des liens. Il y a des questions, peut-être.
Pourquoi Oura? Parce qu'un de mes livres de chevet, c'est Oura ou la révolution par les Cosaques de Ernest Cœur de Roi. Mais je sais pas, j'aime bien parce que c'est à la fois un cri de guerre et un cri de joie. Et voilà. Mais ça va pas plus loin. Hein, c'est... enfin, c'est déjà pas mal. ouais.
Je m'y refuse absolument. Non, mais oui, bien sûr, si vous voulez. Je n'ai pas prévu en particulier, mais je peux en lire quelques-uns, si vous voulez. La pluie glacée poursuit chacun dans son impasse, la berge étroite du flux de tôle. Autour des foyers électriques, les grappes de noues venues nous réchauffer les fesses ou nous brûler les yeux, sommes d'animaux rationnels, non entier, fraction irréductible, au dénominateur commun, proche de zéro. Quel intestin expulse les ressortissants ? D'ailleurs, pourquoi, au juste un mot, dirait-il la violence, violence, qui se déploie, détaillée dans les opérations de police ? La honte nous survivra. Nos descendants diront enjamber des corps, longer des familles à terre pour faire leurs courses. Ou des as du contrôle, héros de SF, parleront de l'époque où l'on s'est mis à s'entrevoir en mesure de chair humaine, biomasse, sans dessin net, et scruteront les figurants au drôle d'accent d'une série Z en costume. Ça, c'est un peu un slogan, donc je lis, ouais, c'est le slogan. Noir en bloc, basket, jean, parka, foulard et lunettes, et l'élégance même. La beauté n'est pas annoncée des ouvriers qui dépassent chacun du trou qu'ils creusent, ni la résurrection des corps enfouis en l'état. L'heure de la relâche, aujourd'hui, tombe avec la nuit. Ouvre la bouche et bois la tasse avant d'avoir dit un mot. La vague déferle des nouvelles nouvelles, laisse en apparence quittonne intacte. Tenir debout, surfer, s'échouer, plonger, l'apnée n'a qu'un temps, seul un monstre court devant les titans de l'oubli. Un dernier. Ah ben voilà, ça c'est d'une autre ville, ça c'est à Rotterdam justement. Donc il n'y a pas que Paris. L'infernale invention des Hollandais violents, la zone d'achat croque le cœur de ville. On va vivre plus loin, on s'y fait, quitte à se faire à pied la fin du rayon manquant d'air. Le trafic à peine ralenti par les seniors dans les tunnels, les mineurs isolés, planqués dans les fossés, campés dans les fourrés. Cependant que le commerce chante au centre, à tue-tête, c'est son truc. Autour, l'espèce vivante déchante, en proie à la rue, sur les routes, des souris des villes et des camps, chassées par un gros chat, perçant, sourd, presque aveugle.
Un autre dernier ?
Ce n'est pas ici qu'est notre bonheur. Pourtant, c'est ici que nous nous croisons, alors c'est d'ici qu'il nous faut parler, alors c'est ici qu'il faut nous parler.
Là, dans l'avant-dernier poème, j'ai entendu presque une espèce de manifeste ou de propos qui exprimerait ta propre poétique. Voilà. Est-ce que je me trompe ? Alors, l'avant-dernier, voilà. On peut se projeter dans presque un processus d'écriture, il me semble. Alors, c'est peut-être une...
comme je vois pas de quel passage c'est, je fais réponse générale. En général, il me semble, c'est une chose que j'ai remarqué souvent, et pas spécialement pour moi d'ailleurs, que les textes, surtout en poésie, peuvent être toujours aussi légèrement interprétés comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours une lecture, on peut se dire... Et pourquoi ? Ben, c'est pas parce que spécialement les poètes ou les écrivains sont obsédés par leur propre pratique, leur propre auto-justification, etc. C'est simplement, je pense, que la poésie, plus que les récits, concerne la situation présente pour celui ou celle qui écrit et pour celui ou celle qui lit aussi. Et dans la situation présente, bah, y a le fait d'écrire un poème. Et donc, c'est normal qu'il y ait des espèces d'intuitions ou de sentiments ou de sensations ou de descriptions qui se rapportent à ça. Mais ce que j'avais trouvé comme manière de justifier ça sans en faire le centre du propos, hein, parce qu'on a beaucoup... gloser et trop, à la limite, sur l'auto-représentation de la littérature, la façon dont l'écriture, surtout qui se veut un peu expérimentale, serait en permanence une sorte de réflexion ou de rumination de ce que c'est qu'écrire, etc. L'image qui me venait à l'esprit, c'est quand on invite des gens à dîner chez soi, on est obligé de s'inviter aussi soi-même à table, et pour autant, le but de l'opération n'est pas de s'inviter soi-même à dîner chez soi. Vous voyez, donc je pense qu'il y a certainement des résonances qui font allusion délibérément ou non d'ailleurs, hein, consciemment, à la situation d'être en train d'écrire et de ce que ça peut impliquer, mais qui sont pas le centre, enfin qui sont pas le propos principal, quoi.
Est-ce que le travail du récit a encore un sens aujourd'hui, premièrement, et deuxièmement, quel regard vous jetez sur les pratiques d'écriture actuelle ?
Ah, c'est vaste comme question. Oui, j'ai pas d'avis vraiment très arrêté, hein, pour aucune des deux questions, mais pour le récit... une réponse personnelle, c'est que moi, j'ai plus envie d'écrire du tout. Je devrais plus m'en inquiéter, peut-être. Enfin, j'ai vraiment pas de pulsion d'écriture du tout depuis au moins un an et demi, deux ans. Donc, je sais pas si c'est plus le récit qui me paraît impossible que la poésie. À vrai dire, les deux me paraissent difficiles, là. Mais à moi, hein. Quant au sens d'écrire des récits, c'est une question que je me suis tout le temps posée. Bien que j'ai beaucoup essayé d'écrire des récits, enfin, je l'ai beaucoup fait, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de doutes sur la pertinence, l'intérêt, le style ou le registre dans lequel ça avait encore un intérêt de faire ça. Donc là non plus, je ne suis pas très, 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 pas très fixé. Ce qui est sûr, c'est que, je ne saurais peut-être pas très bien dire pourquoi, mais les récits de type dystopie, science-fiction, fantastique, léger, ancré dans la réalité quotidienne, c'est sans doute ce qui pourrait m'intéresser le plus en ce moment. À lire, hein, éventuellement à écrire, mais aussi à lire. Pourquoi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ça doit être lié à l'ambiance générale.
Moi, j'arrivais un peu comme ça. Je connais pas du tout cette maison d'édition.
Oui.
C'est la tienne. C'est toi qui l'as fondée.
Oui.
D'accord. Et il y a combien de livres édités ?
Un.
Voilà. Okay.
Ça suffit. Hein.
Ouais. Voilà. On peut s'arrêter là.
Tu peux parler
de la suite.
Bah oui, c'est vrai. Tu peux parler de la suite.
L'actualité, c'est en gros le prochain livre qui sort en mars. C'est un livre qui s'appelle « J'adore apprendre plein de choses » de Nathalie Quintane. C'est un très beau manifeste contre l'éducation nationale. Et ça, voilà. Et ça, par une enseignante, bah, du coup, de l'intérieur. Mais c'est pas assez... Bon, je peux vous le décrire, mais ça aurait pas de sens. Enfin, faut attendre mars, quoi. Et voilà. Puis il y a d'autres livres sur le feu, mais c'est un peu très doux. Il y a notamment une réédition de Organ de Saint-Just, enfin une modernisation du texte par Organ. C'est un poème épique, un peu libertin, ouais. C'est des histoires de rois et de princesses, voilà. C'est très critique et c'est en fait, ce serait présenté par une universitaire canadienne qui s'appelle Geneviève Boucher, qui, enfin, pour elle, ça a du sens. Enfin, en fait, elle travaille sur cette modernisation et elle, enfin, ça a du sens pour moi aussi parce que c'est En gros, ça pointe un rapprochement qu'on peut faire entre les partisans de la terreur et les amateurs de poésie. Et enfin, ça soulève des questions politiques aussi. Il n'est pas encore frais, du coup, je ne peux pas en parler trop. Mais pour moi, il est intéressant parce que ça peut soulever des questions comme ça contemporaines, quoi. Et voilà. Et puis il y a d'autres livres sur le feu doux. Et puis voilà, et du coup, ça c'est peut-être les prochaines parutions en poésie, mais j'aimerais aussi faire de la critique d'art. Et là, c'est beaucoup plus dur par contre. Je trouve, moi j'en lis beaucoup, mais plutôt ancienne, plutôt 19e siècle, je sais, enfin. Et j'ai l'impression que j'ai pas trouvé. J'ai pas encore eu une rencontre intéressante avec un critique d'art contemporain, de ma génération en tout cas. Et je pense que ça doit exister, mais je ne les connais pas. Et voilà. Mais du coup, il y a quand même un projet de réédition d'un livre de John Berger qui s'appelle « Et nos visages, mon cœur, fugace comme des photos ». C'est un livre qui traite de photographie et qui est très bien et qui est épuisé, mais qui est très très bien. Du coup, il sera plus épuisé bientôt. Mais tout ça, c'est très lent parce que ça coûte cher d'investir dans des livres et tout ça. Du coup, ça prendra son temps, quoi. Peut-être, c'est au moment que Joannès et Minus présentent une... Joannès et Minus qui sont là, c'est des amis de Suède. Et ils m'ont fait la surprise d'avoir traduit La sirène de Satan en suédois. Et peut-être ils peuvent nous parler de cette expérience-là.
Oui, on a trouvé ce livre un peu par hasard. C'est Minus qui l'a acheté d'abord. Et à la maison, on a vu que c'était Clément qui a fait paraître le livre que je connais depuis quelques temps, quelques années en fait, mais on ne s'est pas vu. Alors, on a pris la décision de traduire le livre en suédois sans avoir un éditeur. On n'a pas encore, d'ailleurs. Même quand Minus a reçu la question par un centre social pour le 1er mai cette année, on n'a pas eu de manif, de grande manif en Suède à cause de... Et alors, ce centre social qui s'appelle Cyclopen a fait une émission radio toute la journée. Et on a posé la question si vous voulez partager quelques matériaux pour... Alors, on a fait un petit enregistrement de quelques morceaux de... Eh oui, à diffuser ensuite, diffuser. Donc, même maintenant, ça vient peut-être de paraître dans une maison d'édition suédoise qui s'appelle Château. Château en français.
Oui, en fait, c'était la couverture et le travail avec les images qui m'a frappée d'abord. Et c'était pour ça que je voulais acheter le livre. Après, on a découvert que c'était un ancien ami de Johannes qui l'avait édité.
Vous voulez qu'on vous lise un poème en suédois?
Hon öppnar en parentes runt några sekunder stavelser. Grenarna lossade, förskonade av hösten. Bilarna som solen förgyller. Jag byggnaden mitt emot, driver i akvariet. Där var och en finner sin jämvikt, utan att bekymra sig om andra. Som ett moln ser ett moln utan den minsta frihet vinden. Strömmen och vädret är samma för alla. Att leva åtskiljer är dess svar. Inget är mer abstraherande än ett jagande fågelöga. Så jag lånar dess blick och jag säger för att världens dumhet löses upp. Några sekunder, det är lite försök. Svarar hon, det är enormt.
Elle ouvre une parenthèse de quelques secondes, syllabes détachées, les rameaux épargnés par l'automne, les voitures que le soleil dort, voir l'immeuble d'en face, dérive dans l'aquarium où chacun trouve un équilibre sans se soucier des autres, comme un nuage. Observe qu'un nuage n'a pas la moindre liberté, le vent, le courant et le temps étant les mêmes pour tous. Vivre sépare, c'est sa réponse. Rien de plus abstracteur qu'un œil d'oiseau qui chasse. Alors, j'adopte son point de vue et je dis, pour que le ballot du monde se délie, quelques secondes, c'est peu. Et c'est, répond-elle, c'est énorme.
Tunnel det enda mörkret upplyst av 15 lumens per watt 10 meter framför 50 kilometer i timmen. Skakigt stryker landskapet med ett vinande som modulerar och slag. Frusna av vind, ytor reflekterar. Skyltarna är du den enda levande. Brum brum, motorn, ly, ses upp geranium, rösten, rödfärgar livfullt. Valmofälten, en backe, himlen är absolut svart.
Tunnel, le seul noir éclairé par 15 lumens watts, 10 mètres devant, à 50 km heure, chaotant, rase campagne avec un sifflement qui module et des claques glacées d'air. Des surfaces réfléchissent la signalisation. Es-tu le seul vivant? Vroom vroom, le moteur s'éclaircit la voix, des géraniums rougissent, vifs, le chant du coquelicot, une pente, le ciel est absolument noir. »